un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une administration comme une autre, avec sa hiérarchie, son management plus ou moins heureux, ses moyens souvent en baisse, les promotions et les avancements. Mais de la pénitentiaire, on ne parle pratiquement jamais. Une petite muette, comme l'armée et sa grande sœur, tant ses agents sont soudés, se taisent et se protègent quand ils ne couvrent pas tout simplement ses fautes. Sauf qu'il y a Hervé, qui a pris sa retraite il y a peu et a décidé de vider son sac. Pendant les quasi 20 ans où il a été chef de détention et officier pénitentiaire dans une grande centrale, il a pourtant donné l'alerte plusieurs fois, mais ça n'a pas suffi. Alors il nous a écrit au pied sur terre pour nous dire qu'il voulait tout dire, et c'est pas peu dire. On a orienté son témoignage sur quelques années significatives, mais il en a dit beaucoup plus encore sur toute cette poussière qu'on met sous le tapis, comme il dit. Tout de suite donc, quelques années dans la vie d'une centrale.
Je m'appelle Hervé, je suis officier d'administration pénitentiaire depuis 2004 et je fais valoir mes droits à la retraite en 2023. Ce qui me semble intéressant à raconter, c'est une période que j'ai connue en tant que chef de détention qui s'est déroulée aux alentours des années 2011, 2012, 2013 où j'ai connu une nouvelle direction avec de nouvelles méthodes qui ont provoqué chez moi une sorte de burn-out, là, je ne pouvais plus travailler, quoi. Le premier souvenir, c'est le nombre de portes qu'il faut passer pour aller à son bureau, quoi. J'avais une quinzaine de grilles, donc vous comptez entre 30 secondes, 40 secondes derrière chaque grille. Et voilà, c'est de temps infini qu'on passe à attendre que la porte s'ouvre. En fait, tous les déplacements sont ponctués par des portes qui sont ouvertes à distance par des gens que tu ne vois pas, dans un univers assez oppressant. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a passé beaucoup de temps à attendre derrière les portes, quoi. Ça, c'est marquant quand on rentre en prison. C'est la sécurité poussée au paroxysme. Donc les grilles, ça fait des sas. C'est en cas de prise d'otage, il y a plusieurs sas pour pas que le détenu s'évade, mais il s'évade jamais par les grilles. Donc on rajoute la sécurité, quoi. Des murs, des alarmes, des caméras, des miradors, des enceintes. On en rajoute. Voilà, ça c'est l'obsession de la sécurité, quoi, en centrale. Et puis, il y a une grosse évasion en 2009 avec une prise d'otage et des explosifs. Il y a un directeur qui est nommé, qui arrive, qui a des méthodes très autoritaires et qui, au bout de 2 ans, doit partir. Il a tous les syndicats, il a tout le monde contre lui, il faut qu'il parte. Donc, on avait une nouvelle direction qui est arrivée, une nouvelle directrice, et elle arrive pour remettre de l'ordre avec des nouvelles méthodes de management. Des projets, une volonté d'être à l'écoute, on pensait tous que les choses allaient changer. Donc déjà, en arrivant, elle met en place un stage de cohésion. On va dans un endroit, en région lyonnaise, et on fait plein d'épreuves que je trouve, pour ma part, stupides. Par exemple, on vous met tous dans une pièce et on balance une bombe lacrymogène, par exemple, pour souder le groupe. Faire de la tyrolienne en pleine nuit dans le noir, faire de la descente à rappel dans le noir, enfin, plein de choses qui sont censées nous éprouver, quoi. Voilà, on a droit à ça pendant 3 jours, c'est obligatoire. Mais moi, ça ne marche pas avec moi. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je refuse de le faire. Elle décide aussi, pour qu'on parle de la centrale, un projet de faire tondre tous les abords par des moutons. Voilà, bon. Donc, elle prend un prestataire, un berger, qu'on paye assez cher. Et les moutons sont chargés de manger l'herbe tout autour de la centrale, en fait. Et dans la ville, ça se sait. C'est bien, c'est écolo. Sauf que ça marche pas. Le berger n'est pas à la hauteur. Et un jour, on s'aperçoit que les moutons meurent en bas des miradors, faute de soins, quoi. Et la procureure de la République doit, à l'époque, envoyer la fondation Brigitte Bardot pour récupérer les moutons vivants. Et la procureure met fin à l'expérience, en fait. Ça fait le tour de la ville, quoi. Voilà. C'était une piètre image de l'administration pénitentiaire. Quelques mois plus tard, comme on a des détenus radicalisés, des détenus islamistes, des détenus violents, terroristes, elle dit on va mettre en place un centre équestre dans la prison, ce qui coûte très cher, financé par le budget antiterroriste. Alors, soit c'était des terroristes, c'était condamné, soit des gars dont on pensait qu'ils pourraient basculer dans la radicalité, en détention, voilà. Travailler sur la violence à partir du cheval, c'est ça l'idée, l'équithérapie en fait. Elle construit ce centre équestre près des Miradors. Donc ils ne peuvent pas aller là, les détenus. C'est une zone interdite, c'est pas prévu pour les détenus. En tout cas, ce centre, il a marché une journée, et après, il y a un ordre de la direction, la grande patronne a dit non, vous arrêtez tout, ce centre n'est pas sécure en fait. Il n'a pas à être là. Vous êtes trompé d'endroit en fait. Non, maintenant le centre équestre est là, vide, on le voit des fenêtres des détenus, il ne sert à rien. Il a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. C'est bien beau, les moutons, le centre équestre, mais il n'y a pas de vraie réflexion sur le sens qu'on veut donner leur peine. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui sont des longues peines? Et pour comment expliquer qu'il y a autant de récidives? Pourquoi ces types ils sortent finalement, ils n'ont rien appris, quoi. Moi, je me souviens, un jour... Pareil, au bout de quelques... très rapidement, commission discipline avec cette directrice et un détenu qui a menacé de mort un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. Et lui est là pour viol. Qu'est-ce qu'elle fait, notre directrice? Elle est extraordinaire. Elle invente une sanction. Vous savez, les sanctions, quand on passe en commission discipline, tout est prévu par le code de procédure. Hein. On ne peut pas inventer une sanction. Bon, le détenu fait un peu de quartier disciplinaire quand même, mais... Elle rajoute une sanction, elle lui fait recopier une chanson de Angèle. Balance ton quoi ? La recopier, pour la comprendre. Donc il a recopié. Alors, au début, ça peut faire sourire. Moi, je trouve ça d'une bêtise sans nom, parce que déjà, encore une fois, c'est un violeur qui était récidiviste, un gars dangereux. C'est prendre sa peine à la légère, rebalance ta chanson. Je trouve ça complètement con, en fait. À l'intérieur de la prison, il y a des trafics qui s'organisent, les caïds qui gèrent leur business de la prison. C'est l'endroit en France où on trouve le plus facilement de la drogue, par exemple. C'est dans les prisons. Et là, je ne parle pas que du shit, je parle des drogues dures aussi. Il y en a partout. Aucun directeur ne prendra le risque de lutter contre la drogue, parce qu'il y a un risque d'explosion. Sans drogue, en prison, ça explose. C'est comme ça que les détenus tiennent, ils fument toute la journée, quoi, en fait. Ils rentrent, pas forcément addicts, et ils sortent addicts. Voilà, ça c'est un réel problème. Donc là, la drogue, elle va rentrer par les parloirs, par la famille et par le détenu. Et ils se la mettent dans les orifices naturels. Ils se la coffrent, on appelle ça. Quand il est au parloir, il y a une porte, il y a un hublot, mais c'est pas surveillé 24/24. Hein. Donc là, il a le temps largement de se mettre quelque chose dans les fesses. Hein. Ça dure quelques secondes. Hein. Des fois, il se prépare avant de descendre au parloir, il se lubrifie les fesses. Ouais, non, c'est un autre monde. Hein. Il y a des gens dans la prison qui sont plutôt des gens vulnérables, qui sont des spécialistes. Les caïds ne font pas rentrer dans les fesses. Hein. Ils ont des gars qui font ça contre un bout de shit et ils coffrent. On a des coffreurs attitrés. Hein. Donc ça rentre comme ça, beaucoup. Maintenant, le fléau aujourd'hui, pour nous, c'est les drones. Ils ont des drones qui télécommandent et qui amènent la drogue carrément devant la cellule. Le drone se positionne devant la fenêtre, en fait. Et le détenu passe la main à travers les barreaux, quoi. Donc ensuite, le directeur adjoint, lui, à l'époque, il pratiquait la cogestion, c'est-à-dire que il gère la prison avec 2-3 caïds. Des gens du grand banditisme, des gros trafiquants de drogue internationales. C'est ce qu'on appelle en jargon des DPS, détenus particulièrement signalés. Donc il traitait avec ces gens-là. Il s'en sert pour calmer la prison, pour régler les problèmes. Si un détenu pose problème, ils vont voir le caïd et disent lui, ça va, faut le faire passer le message qu'il arrête de casser les pieds à tout le monde. Il leur faisait passer des messages, voilà. Et ces caïds avaient quand même beaucoup de choses. Ils pouvaient plus facilement avoir un emploi, ils avaient une bonne appréciation s'ils faisaient une demande d'aménagement de peine. Et puis d'autres détenus, qui n'existaient pas, quoi. Des gens dont on les oubliait un petit peu, quoi. Alors, le risque. Quand on fait la cogestion comme ça, c'est que ça peut vous péter la figure. Et ça nous a pété la figure. Il se trouve que ce directeur adjoint avait un type avec qui il passait beaucoup de temps. Ce détenu caïd avec qui il traitait, les agents, pour rigoler, l'appelaient le chef de détention. Comme moi, en fait. Et donc, ce caïd a pris beaucoup d'importance en détention, sauf que c'est un détenu. Et un jour, il a commis dans la détention une très grosse agression avec un rouleau à pâtisserie. Il a agressé très sérieusement un co-détenu. Là, on ne peut pas faire autrement que de convoquer ce caïd devant une commission de discipline. Le gars est sanctionné de quartier disciplinaire. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'il a été vu par les caméras. Le caïd, lui, se rebelle et dit au directeur, il tutoie, non, tu te fous de ma gueule, je t'ai géré ta détention, tu ne vas pas me foutre au trou. Il a en même temps, à ce moment-là, il a une permission de sortie. En prison, quand vous obtenez une permission de sortie, si entre-temps vous passez en commission de discipline, la PS, on appelle ça une permission de sortie, il saute. C'est annulé. Donc le gars dit, moi je veux ma PS, moi je veux bloquer la prison. Donc il veut faire descendre en promenade tous les détenus et ne plus remonter. Si 30 ou 40 détenus vont en promenade et à 17h ne veulent plus remonter, nous on est bloqués, on ne peut pas rien faire. Il faut faire appeler des équipes de sécurité de la direction interrégionale. On n'a pas les moyens de les faire remonter de force. C'est une sorte de petite mutinerie. Hein. Le directeur, il panique. Il dit, il faut qu'il ait sa permission de sortie. Mais en prison, tous les détenus savent ça. Comment ça se fait qu'un tel qui est au quartier disciplinaire a sa permission de sortie? Et là, les autres, sont le clan d'en face, parce qu'il y a deux clans qui s'affrontaient. Pour le clan d'en face, si ce détenu a eu sa PS, pour eux, il y a quelque chose. C'est une balance. C'est l'accusation la plus répandue et la pire. Un caïd qui passe pour une balance, c'est pas possible. Ça le suit partout, et c'est terrible pour lui. Donc il a eu sa PS, mais quand même après, il fallait faire partir. L'urgence, pour sa sécurité, et puis pour il fallait qu'il parte, c'était plus possible, quoi. Quelques semaines après, la rumeur de balance persiste, et le lieutenant du premier caïd, qui est transféré, et le clan d'en face descendent tous en promenade après pour régler leur compte. Ils récupèrent des choses, ils transforment ça en couteau, en arme. Donc ça finit par une bagarre collective, des coups de pique. Il y en a un qui part avec le SAMU, il a les poumons perforés, plusieurs blessés graves par coups de pique. Les agents ont l'ordre de ne pas rentrer sur la promenade, c'est trop dangereux. En prison, on n'est pas armé. Hein. Et un deuxième caïd, un gars qui gérait la prison, hein, du clan d'en face en fait. On le voit clairement porter un coup de pique aussi sur un gars d'en face. Donc pareil, le directeur ne peut pas faire autrement que de le sanctionner pour des blessures par arme. Lui aussi, il monte au prétoire. Le prétoire, c'est la commission de discipline de la prison. Le directeur le sanctionne. Il dit, je vous ai vu par caméra donner des coups à un tel. Et là, le deuxième caïd dit, moi je n'irai pas au quartier disciplinaire. Je te gère ta tôle, moi ta tôle, je vais la faire péter. Donc on le met à l'isolement pour des motifs de risque graves pour l'établissement, puisqu'il a proféré des menaces sur la direction. Et à l'isolement, il demande à voir le directeur, qui vient le voir à l'isolement, en urgence. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Une heure après, le directeur revient nous voir au rapport des cadres et dit « C'est bon, je le sors de l'isolement. » Il retourne dans sa cellule. L'information qu'on a eue après, c'est qu'il avait menacé le directeur, en fait. Il lui aurait dit, je vais te foutre dans un coffre de voiture. Donc tu me sors l'isolement, tout de suite. Quand on traite avec des caïds, à un moment, ça nous pète à la figure. Est-ce qu'ils prennent la main? Une prison comme ça, c'est une cocotte minute. C'est très dur de tenir les règles sur la durée. On est tout le temps obligé de composer. Parce que si vous faites preuve d'autoritarisme, la prison, elle brûle. Le surveillant, sur sa coursive, il fait un peu ce qu'il veut. Il gère ça à sa façon. C'est pas très cohérent. Certains agents vont laisser la porte ouverte pour avoir la paix. La règle, c'est fermer. Le détenu doit être fermé dans sa cellule à clé, mais beaucoup laissent ouvert. Il veut pas se prendre la tête, quoi. Il a 7 heures à faire, le surveillant. Il veut pas se faire blesser, il veut pas se faire insulter. Et quand un gars, par exemple, applique la règle, il n'y en a pas beaucoup. Quand l'autre sud après n'applique pas la règle, c'est des incidents. Voilà. Moi, à titre personnel, laisser fermer un détenu longue peine toute la journée, ces gens-là, ils ont 20, 30, 40 affaires. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut de la souplesse. Mais la direction faisait comme si c'était fermé, mais c'était ouvert. ça arrange tout le monde que ce soit ouvert, mais quand il y a un incident, tout de suite, il faut trouver le responsable, et c'est le surveillant qui n'a pas fermé sa porte. Voilà. On sait tous que c'est comme ça, mais on fait comme si ce n'était pas comme ça. Voilà. Moi, j'étais en décalage avec mes collègues. Parce que déjà, je n'étais pas pénitentiaire, je ne raisonnais pas pénitentiaire. C'est un milieu, finalement, où on lit peu. Moi, je vais beaucoup au cinéma, on ne va pas beaucoup au cinéma. Et quand tu es surveillant ou officier, ils vivent en vase clos. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps à la prison. Et puis en dehors, ils se voient en dehors. Ils partent en vacances ensemble, ils se marient entre eux. Et puis, ils raisonnent toujours de la même façon. Ils sont plus ouverts sur les autres. Moi, j'étais complètement en décalage avec ces gens-là. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. J'étais tout seul dans mon coin. J'ai tenté d'associer syndicat à une réflexion qu'on pourrait avoir sur notre travail, sur nos conditions de travail, sur nos horaires de travail. Et je voyais que j'étais tout seul à me poser des questions. J'étais un peu l'empêcheur tournant en rond, le coupeur de cheveux en quatre. En décalage, quoi. Un jour, pareil, le directeur adjoint venait de prendre ses fonctions avec ses directrices. Et lui, il ne connaissait rien au fonctionnement d'une centrale. Et il voulait appliquer les mêmes méthodes qu'en maison d'arrêt. C'est pas pareil. Et donc, un jour, il venait d'arriver, ce directeur. Il doit passer en commission de discipline à un gars, un papy, qui a presque 80 ans. Donc, un des plus vieux détenus de France, qui était perpétuité. Et ce gars-là, il avait insulté un agent. Mais j'ai comme fait un vieux un peu sénile, quoi. Donc je lui dis, moi devant tout le monde, je dis, écoute, c'est un tel, c'est un papy. Moi je pense qu'une punition, genre, tu l'enfermes dans sa cellule et tu le prives d'activité, ça va suffire. Ah non, non, il me dit, non. Il va passer en commission de discipline. J'étais tout seul à dire ça, je dis, mais non, ça va pas, non, c'est un tel, il a 80 ans le type. Non, il va y aller. Donc il le fait, dans son obstination, le détenu, il va au quartier disciplinaire. Une cellule, c'est juste un lit en goudron et un tabouret, c'est tout. Et un toilette insalubre. C'est quand même pas facile, le quartier. Pour des insultes, c'est pas l'affaire du siècle non plus. Qu'est-ce qu'il fait au bout de 10 minutes? Il fait un infarctus. Il est parti que le 15. Le SAMU. Et j'étais le seul à être choqué. Alors tout ça, c'est la nouvelle direction. Mais pendant cette période-là, je vois beaucoup de gens qui sont en souffrance au travail, qui ont des problèmes de dépression. Il y a beaucoup de gens qui vont mal. Et là, elle, qui est toujours dans l'affichage, elle met en place un nouveau projet et fait venir une masseuse à la prison. Ah ben c'est génial. C'est une directrice, elle prend soin de ses agents et les volontaires ont droit à des massages. Et elle appelle ça les massages assis, parce que c'est pas des massages sur une table de massage. Le surveillant reste en uniforme, mais on lui masse la nuque, le dos, mais les gens gardent leurs vêtements. Hein, c'est pas, y a rien de... Quand moi, je vois ce qui se passe réellement, où les agents n'en peuvent plus. Je vois des agents à bout, tendus, fatigués, ne pensent qu'à partir. Et que les problèmes ne sont pas abordés, et qu'à côté, on dit, attendez, moi, je prends soin de mes agents. Et c'est vrai, personne n'a fait ça avant, et personne n'a fait ça après. Faire masser ses agents, voilà. Personne est capable de dire, mais attendez, arrêtez vos bêtises, quoi, ça suffit. Non, tout le monde a trouvé ça, finalement, c'est pas mal. Hein. Moi, je ne suis pas allé. Je refuse. Parce que j'aurais participé à cet climat démago, là, ambiant. Non, je refuse. En gros, tu me fais du mal et après tu me fais masser, quoi. C'est pas possible, quoi. Je cautionne pas ça. Voilà. Quelques mois plus tard, un jour, on a eu un incident qui s'est révélé assez drôle. Au quartier d'isolement, on trouve dans un papier cellophane une matière noirâtre. Qui sentait fort. La directrice arrive avec son adjoint, on lui dit que ce sont des explosifs. Donc matière suspecte, matière explosive, cachée dans un endroit où il y a un téléphone, donc c'est en prévision d'un détenu qui veut se faire sauter une porte. Toujours pareil, toujours l'obsession de l'évasion. Donc moi je suis un peu plus sur la réserve, et je trouve que la matière elle sent pas bon, mais elle, la directrice, n'entend plus rien bien sûr, elle n'entend rien. Branle-bas de combat, elle fait venir en urgence, en pleine nuit, un hélicoptère qui servait au SAMU, qui s'est déporté chez nous pour amener en urgence un des mineurs qui était chargé de voir la matière qui sentait pas bon. qui regarde le produit, il dit bah, « moi, ça m'a l'air dangereux, je ne sais pas ce que c'est, ce ne sont pas des explosifs ». Le procureur est saisi, et 3 jours après, le procureur a fait analyser la matière, c'était la matière fécale. Faire venir un hélicoptère, ça coûte très très cher. Tout ça parce qu'on était en crise. Non mais la honte, et c'est un détenu qui a passé sa vie en prison, ce détenu, c'est le détenu B, qui lui est un spécialiste, il nous jette en permanence des excréments dessus. Et il savait très bien qu'on allait partir au quart de tour. Il y aurait forcément une réaction si on trouvait une matière un peu noirâtre. Il s'est amusé, quoi, en fait. Et ça a marché du feu de Dieu. Et je pense que quand il a vu se poser l'hélicoptère, quelques heures après, il a dit ah, « ils sont champions du monde. Hein. Champions du monde. » Ce métier rend paranoïaque. Moi, je me souviens, à cette époque-là, un détenu sensible décompense complètement. Il fait caca dans sa cellule. On le retrouve tout nu. Et moi, je dis, il va pas bien du tout, ce détenu. Faut le faire voir par un psychiatre. Et là, on me rétorque sèchement. Mais t'as rien compris, toi. Tu vois pas qu'il simule. Il veut s'évader. Je dis, mais ça va pas. Si, il veut se faire sortir pour voir un médecin à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y aura des complices. Et moi, je le connais bien, ce détenu. Il est schizophrène, je pense. Il entend des voix et tout. Il est délirant. Mais chaque fois que j'en parlais dans une réunion, je dis, il va pas bien. Il peut pas simuler à ce point, c'est pas possible, parce qu'il simule sur tellement de temps, tellement d'heures, et tellement de journées, de soirées, voilà, il peut pas simuler. Et à chaque fois, on me répondait, non, t'as rien compris, toi. Voilà. Ça, c'est typique de la pénitentiaire. C'est ça que je suis en décalage avec mes collègues. Pour eux, je suis laxiste. Je suis pas laxiste. Je suis juste humain. Mais c'est pas pareil, hein, par rapport à mon directeur qui pratiquait la cogestion. Moi, je suis pas dans la cogestion. Moi, je traite tout le monde pareil, y compris les caïdes. Un jour, y a quelqu'un qui va lui suggérer à cette directrice que les gilets jaunes vont attaquer la prison. Je ne crois pas du tout à cette information, je dis, oh, quand même. Et là, elle a paniqué aussi, elle a dit, puisque c'est comme ça, demain matin, tout le monde viendra à 6h, parce que les agents sont censés prendre à 7h. Vous viendrez plus tôt, je vais préparer un déjeuner, un grand déjeuner pour tout le monde. Voilà, donc elle était en crise et pensait que les gilets jaunes allaient attaquer une prison. Et bien sûr, ils n'ont jamais attaqué la prison. Et voilà. Donc, elle a dépensé beaucoup d'argent pour acheter un déjeuner. Et pensait même qu'elle préparait des repas pour le soir, au cas où on ne pourrait pas partir et tout. Voilà, délirant. Ah oui, une autre fois aussi, elle nous explique que dans le Covid, il y a plusieurs stades. Là. Donc, je dis, qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter? Il y a 5 stades. Donc là, tout le monde se regarde. Et puis, elle dit, j'ai tous les pouvoirs. S'il faut, je vais garder 3 semaines les agents dans la prison sans qu'ils sortent. Et un directeur lui demande, mais tu vas garder 3 semaines les agents sans qu'ils sortent, sans qu'ils rentrent chez eux? Non, c'est comme ça, c'est la crise. Et là, il lui dit, mais comment ils vont manger? Ah ben c'est simple, je les ferai livrer par hélicoptère. Non, mais... Et là, on s'est tous regardés complètement cinglés. Enfin bon. On aurait voulu qu'ils mettent un peu plus d'énergie à trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail, toutes ces choses-là. Parce qu'il faut savoir aussi, elle exigeait de nous une corvéabilité permanente, quoi. Moi, j'ai vu une forme d'aliénation. Il fallait que je consacre ma vie à la prison, quoi. Comme j'étais responsable. Elle, ça n'intéressait pas de savoir que j'ai des enfants, une femme. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que je sois là le plus longtemps possible dans la journée, que je revienne de temps en temps le soir, faire des opérations, que je vienne éventuellement le week-end, s'il fallait que je vienne le matin à 6h, ou je reste entre midi et 2, ou voilà, je sois présent tout le temps. Donc j'ai fait une sorte de burn-out, là, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'écoper l'océan tout seul, quoi. On me rendait à la fois responsable de tout, j'avais finalement très peu de marge de manœuvre, rien ne changeait. J'ai exprimé plusieurs fois mes divergences et elle savait que je savais beaucoup de choses, elle savait que je n'approuvais pas le centre équestre, les massages assis, elle savait que ça me laissait de marbre, et voilà, donc elle a vu que je ne marchais pas dans son système. Donc très vite, on avait des relations très froides, hein, très très froides. Ouais. Après, je n'ai pas senti que les gens la critiquaient parce que c'était une femme, non. J'ai pas senti de sexisme de la part de mes collègues, non, franchement, non. De ma part non plus. Puis après, elle a su créer autour d'une cour, quoi, de gens dévoués corps et âme, qui ont eu des postes, des promotions. C'était pas les plus méritants. Et puis, ça s'est très mal passé pour moi, c'est que j'en ai pris plein la figure, quoi. Dans ma carrière, j'ai jamais eu de promotion. En fait, à la fin, j'ai été prié de laisser le poste de chef de détention pour un poste moins important. Donc j'ai fini ma carrière à un grade d'officier lambda sur un poste occupé par un lieutenant, alors que je suis capitaine. En étant chef de détention centrale, je pouvais prétendre à mieux. Finalement, c'était pas si mal que je prenne un poste moins fatigant, quoi. C'était beaucoup moins de stress, beaucoup moins de responsabilité. Et j'ai pris ma retraite, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai commencé un master d'histoire en septembre avec une fac à Paris. En fait, au départ, je voulais travailler sur les émotions au Moyen-Âge. Mais c'était naïf de ma part parce que je ne suis pas du tout latiniste. Et donc, à la fac, ils m'ont dit, bah oui, c'est bien, mais vous n'êtes pas latiniste. Donc, c'est trouvé. Donc, j'ai pris la période d'après, quoi, l'ancien régime. Parce que oui, je veux oublier et tourner la page de la pénitentiaire, quoi. Donc voilà, donc je travaille sur des choses qui m'occupent l'esprit.
C'était quelques années dans la vie d'une centrale, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Hervé, à Zoé Coupé, notre attachée de production, et à Hortense Martin, notre stagiaire.
Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Erner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.